Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polothèque
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Radou Mihailinou. Ça.
Bonjour, oui.
Réalisateur de Va, vie et deviens, ou encore de concert, pour son dernier film produit avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui sera sur les écrans le 9 novembre prochain. Il s'agit cette fois de l'adaptation du roman de Nicole Krauss, L'histoire de l'amour. C'est une traversée du siècle, depuis la Pologne des années 30 jusqu'au New York d'aujourd'hui, à travers le destin croisé de quatre personnages, tous réunis par le manuscrit d'un livre, L'histoire de l'amour. Alors c'est à la base un roman à la narration très élaborée, très complexe, qui suit différents personnages sur plusieurs continents, plusieurs époques. Quand on vous a proposé de l'adapter, est-ce que vous avez tout de suite vu le film que vous pouviez faire naître de tout ça? Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans cette aventure?
La genèse de ce film s'est faite en deux étapes, si je peux dire. J'avais lu le livre comme un simple lecteur à sa parution en 2006. Et j'avais été bouleversé par ce livre, effectivement, par toutes ces histoires épiques croisées et par le sujet étant l'amour, et aussi par beaucoup d'humour qui existait déjà dans le livre. Mais à l'époque, pas une seconde, je n'ai imaginé faire un film, peut-être parce que ça se passe à 90% à New York et que je me suis dit que nous, petits Français, on n'arriverait jamais à financer un film aussi cher sur plusieurs époques, en plus à New York. Et il y a 3 ans, deux producteurs, Marc-Antoine Robert et Xavier Rigaud, m'ont rapporté le livre. Ils avaient pris les droits du livre et ils m'ont dit, il n'y a que toi au monde qui pourrais l'adapter. On sait que tu l'as lu, relis-le. Et je l'ai relu et j'ai été à nouveau bouleversé et à la fois ça m'a refait rigoler. Et en traitant sur ces 7 ans de différence qui s'étaient passés, c'est que notre monde s'était beaucoup plus tendu qu'en 2006. Et là, tout d'un coup, j'étais envahi par l'idée en me disant aujourd'hui, il faut d'une part apporter de l'amour aux gens. Les gens sont en manque d'amour. Il n'y a que des déluges qui planent au-dessus de nos têtes. Et d'autre part, ce livre, comme ce film, pose la question, est-ce que nous sommes encore capables de cet amour fou, utopique, dont on était capables tous? Est-ce qu'on est encore capable, d'une part, d'offrir l'amour et de se faire confiance à soi, qu'on peut donner de l'amour aux autres? Et est-ce qu'on fait toujours aujourd'hui confiance aux autres qui peuvent nous donner de l'amour et qui soient capables d'amour à leur tour? Et je trouve que voilà, j'ai essayé de faire ce film effectivement avec une structure un tout petit peu déconstruite, alambiquée, mais qui est aujourd'hui assez commune dans les séries télévisées. Mais je me suis dit, il faut absolument donner ça. Faut envahir, si je peux dire, les écrans et le public d'amour.
Comment vous résumeriez l'histoire pour nos auditeurs en quelques phrases?
L'histoire, comme on appelle le pitch maintenant, d'une manière moderne, c'est l'histoire de deux jeunes formidables, Léo et Alma, qui vivent dans un shtetl, donc un petit village juif en Pologne, juste avant la guerre. Et ils s'aiment à la folie. Mais la guerre approchant, Alma est envoyée par son père à New York pour survivre. Et Léo ne peut pas l'accompagner parce qu'il n'a pas d'argent. Et donc Léo, il lui promet de la rejoindre et il écrit comme une longue déclaration d'amour un livre dont le personnage s'appelle Alma, une longue déclaration d'amour, et ce livre s'appelle L'histoire de l'amour. Ensuite, le livre se perd. Léo survit, et est le seul à survivre pendant la guerre. Il rejoint Alma à New York. Mais après, c'est l'histoire en parallèle aussi, d'une part de ce livre qui traverse les époques, qui traverse les continents, alors qu'il s'est perdu. Et en même temps, bizarrement, il y a une deuxième histoire parallèle d'amour d'une jeune adolescente américaine juive qui s'appelle aussi Alma. Pourquoi? Comment? Et qui a été piquée par le même virus d'un amour utopique. Elle a été condamnée, entre guillemets, dans le bon sens par ses parents, d'être aussi, comme l'Alma du village, la femme la plus aimée au monde. Donc voilà, la fin, on saura pourquoi et comment, pourquoi elle s'appelle aussi Alma. Et quelle est la trajectoire du livre et de tous ces personnages?
Alors, il y a aussi, évidemment, la Shoah qui est présente dans ce livre, la Seconde Guerre mondiale. Vous l'aviez déjà abordé, ce thème, avec le film Train de vie en 1998. C'était Cette fois, en tout cas, vous revenez sur ce qui se passe après, sur comment on se reconstruit après cette épreuve, et puis sur la transmission.
Oui, le film comme le livre parle beaucoup de comment on survit. Et effectivement, la Shoah est présente puisque ça a secoué l'histoire du XXe siècle et surtout l'histoire du peuple juif. Et donc, c'est représenté par le destin de Léo, de cet amoureux et de cet amour qui s'est déchiré à cause de ce grand déluge du XXe siècle. Et donc, le film montre aussi comment la Shoah est rentrée aussi dans l'intime, pas seulement d'une manière qu'aujourd'hui de plus en plus théorique, ça a frappé le peuple juif, 6 millions de juifs morts, ça montre comment ça a déchiré des destins. Donc dans la chose la plus importante presque au monde, l'amour et les liens familiaux. Et Léo est le résultat de comment on survit, comment on se reconstruit après la Shoah. Et le film raconte qu'on peut peut-être survivre et se reconstruire grâce à l'amour. Et grâce aussi à la parole donnée. Parce que Léo donne souvent sa parole à son amoureuse et il respecte la parole. Et ça, pour moi, c'était aussi une leçon par rapport à notre époque où beaucoup de paroles ne sont pas tenues.
Alors peut-être avant de revenir justement sur ce duo Alma et Léo, je voudrais qu'on revienne peut-être sur le début du film qui commence comme ça avec les images d'un village dévasté, abandonné, dont vous reconstituez peu à peu l'histoire ainsi que celle de ses habitants. Donc vous revenez sur la vie juive en Pologne dans l'immédiate avant-guerre. Comment vous avez travaillé pour reconstituer cette atmosphère et aussi de manière plastique en fait?
Bon, d'une part, comme vous l'avez dit, j'avais déjà beaucoup travaillé sur le thème de la Shoah et des shtetls avant la guerre dans Train de vie, où je m'étais beaucoup documenté, j'avais rencontré beaucoup de survivants, des habitants des shtetls, mon père étant issu aussi d'un shtetl en Moldavie, et mon père a été aussi déporté dans un camp de travail en Roumanie, puisqu'en Roumanie, heureusement, il n'y avait pas de camp d'extermination. Donc j'avais déjà une base, si je peux dire, assez solide. Je me suis replongé dans toutes ces documentations, plus des nouveaux documents que j'ai découverts. Ensuite, il a fallu une documentation un peu plus précise par rapport à la Pologne, puisque les shtetls entre la Pologne, l'Ukraine, la Roumanie n'étaient pas tout à fait semblables. Et aussi ce qui s'est passé à l'est, surtout de la Pologne, et cette destruction totale, puisqu'effectivement, le film commence sur un shtetl complètement dévasté, où toutes les maisons sont brûlées, et qu'on se demande pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, quand. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans le film, on comprend le pourquoi du déchirement et de ce peuple et de l'histoire de l'amour. Pourquoi cette histoire de l'amour s'est déchirée, et pourquoi un thème qui revient souvent dans le film, qui est le déluge, dont hérite aussi le frère de la jeune adolescente Alma, qui se prend pour un Lamed Vovnik, pour un Messie, pourquoi ce môme, au XXe siècle, de nos jours à New York, a hérité aussi de cette tragédie sur ses petites épaules frêles, alors qu'il a que 10 ans, et qui se prend pour le Messie et qui veut sauver le monde. Donc voilà, tout ça c'est lié, mais je crois que ça c'est l'histoire du peuple juif, c'est-à-dire moi j'ai pas vécu le camp, mais même si mon père a voulu nous protéger, j'ai hérité de tout ça. Je le porte d'une certaine manière. Et moi, je l'ai transcendé d'une manière positive, puisque j'en fais du cinéma et je fais de l'art. Mais qu'on veuille ou pas, on porte le passé de notre famille et de nos semblables sur nos épaules.
Dans ce film, justement, la question de la transmission, elle est fondamentale, elle est symbolisée, on pourrait dire, par ce manuscrit perdu, donc entre la Pologne et le Chili. Et c'est ce livre qui va rendre la transmission possible, finalement,
oui.
Notamment entre les générations.
Effectivement, le livre crée des liens, et là, il y a la question métaphorique, le mot écrit. Le mot écrit est important, on le sait combien il est important dans la culture et l'identité juive. Et le mot écrit qui reste, et même si certains veulent le détruire, parce que dans le film, il y aura un moment, je ne peux pas dévoiler, où quelqu'un essaye de tout détruire, tout effacer, le mot écrit, surtout le mot écrit d'amour, est plus fort que tout. Et il devient, si je peux dire, contagieux d'une manière positive. Et même s'il se perd, même s'il traverse le chaos, il traverse, comme je l'ai dit, plusieurs époques, plusieurs continents, il passe de l'Europe par l'Amérique du Sud pour arriver dans l'Amérique du Nord. Sur son passage, il crée de la mémoire, il crée du lien. Parce que ces deux familles-là, la jeune adolescente et Léo et Alma, ne se connaissent absolument pas. Et ils seront obligés de se rapprocher et de créer des liens. Et ça aussi, c'est peut-être une question par rapport à notre époque où le mot écrit s'efface. Le numérique, ça, on n'y a pas pensé suffisamment. Tous les mails, les SMS, tout ce qu'on écrit, tout ça, ça s'efface. C'est de la mémoire 2.0 qui n'existe pas. Donc, il faut qu'un jour, on s'y préoccupe. Et effectivement, aussi, ce mot qui s'efface ne crée plus de vrais liens. C'est des liens virtuels. Donc, le film parle de ça, de comment recréer des liens entre générations à l'intérieur de la famille, de tout, à travers le mot écrit.
En même temps, le texte initial a été écrit en yiddish, ce qui peut le rendre plus difficile à transmettre aujourd'hui.
Oui, mais il traverse deux langues, c'est-à-dire il est écrit à la base en yiddish, et ça c'est une trace écrite indélébile, c'est-à-dire lui, il marque de son amour le papier, si je peux dire, à la plume, mais ensuite c'est traduit en espagnol, au Chili, et ensuite c'est traduit en anglais. Donc dès que le mot il est écrit et imprimé, après, il voyage. Moi, je ne suis pas inquiet, j'ai été acteur au théâtre yiddish de Bucarest. Donc, il y a plein de grands, grands écrivains écrivaient en yiddish. Ce n'est pas pour ça qu'on a perdu aujourd'hui leur esprit et leur mémoire. Et c'est ce qui nous crée encore des liens avec Bashe Wisinger, avec d'autres écrivains d'Odessa, Mendel et autres.
Oui, puis la question de la traduction, du coup, est aussi clairement présente dans le film, puisque c'est par cette traduction que le texte peut...
Mais c'est par la traduction aussi qu'on crée des liens, c'est-à-dire vers des gens qui n'auraient pas accès à cette première langue ou une deuxième langue, et c'est pour ça que des livres, Bashe Wisinger et Shalom Aleichem, sont traduits dans le monde entier. Je ne pense pas qu'au leur début, ils pensaient une seule seconde que quelqu'un d'une autre langue les lirait un jour. Mais c'est là la force de l'amour, si je peux dire, et du mot écrit.
Et c'est véritablement le choix de Léo de passer par l'écrit, puisque finalement, lui, il se retrouve en arrivant à New York dans l'après-guerre, dans des retrouvailles impossibles avec Alma, donc la femme qui l'aime toujours, et puis leur enfant.
Oui, mais donc Léo, dès le village, c'est un écrivain. Et ce qui est beau dans sa relation avec Alma, qu'il appelle tout de suite la femme la plus aimée au monde, c'est que lui, c'est l'écrivain, et elle est à la fois sa muse, puisqu'il écrit sur elle, et à la fois son éditrice, celle qui lui dit exactement comment il doit écrire. Il dit, là, c'est trop imaginaire, on ne comprend pas, là, c'est trop réaliste, il faut que tu écrives entre les deux, et écris ce que tu connais le mieux. Et c'est là qu'il décide, il dit, mais ce que je connais le mieux, c'est toi. Et c'est là où il écrira sur elle. Donc, effectivement, cette femme, elle est indispensable pour lui. Et ce mot écrit, pour lui, c'est très naturel. Même si après, à l'image d'un autre grand écrivain, j'imagine qui a inspiré Nicole Krauss et qui m'a inspiré dans le film, qui est Henry Roth, il n'écrit plus, alors que c'est un immense écrivain, on le voit dans ses écrits, il n'écrit plus pendant à peu près 50 ans, avant d'écrire un deuxième livre.
Il y a aussi cette reconstruction qui va se faire à New York, donc dans la deuxième partie de sa vie, il y a un autre personnage, alors c'est difficile peut-être d'en parler sans tout dévoiler.
On ne peut pas tout dire parce qu'il y a plein de petits mystères dans le film. Il faut laisser le plaisir au spectateur.
Ne dévoilons pas le mystère, mais il y a en plus, c'est Bruno qui est en plus, oui, magistralement incarné par Elliot Gould.
Elliot Gould, mythique, monsieur Mash, monsieur série Friends, où il jouait le papa de Monica. Et pour les films plus récents, Ocean 11, 12. Et donc, effectivement, ils font un couple d'amis. Léo, âgé, interprété par Sir Derek Jacobi, immense acteur et qui joue avec Elliot Gould, Bruno. C'est deux potes de 76, 80 ans, mais qui sont comme deux gamins qui se chamaillent tout le temps. Un peu à la Woody Allen, très, très drôle, et qui bougent tout le temps, donc qui giclent dans tous les sens et qui parlent et de leur présent à New York et... ironie de l'histoire, ils vivent à Chinatown parce qu'avant Chinatown c'était le quartier juif, sauf que depuis que c'est devenu un quartier chinois, il s'est vidé complètement de juifs et ils vivent dans la rue où il y a la grande synagogue que j'ai visitée, qui est formidable, mais qui malheureusement n'est plus qu'un musée puisqu'il n'y a plus de communauté à Chinatown. Et donc ils se chamaillent toujours dans cet immeuble-là, entouré de télé en chinois, radio en chinois, tout ça. Et ils forment un couple extraordinaire.
C'est aussi à travers eux que l'humour est particulièrement présent aussi. Enfin,
c'est à travers eux. C'était déjà un tout petit peu dans le livre. Je l'ai un peu plus développé, effectivement, et l'humour juif du Shtetl et Woody Allen, quand même, qui m'a beaucoup influencé. Et depuis la première répétition, je leur ai dit, voilà, vous ne jouez surtout pas des vieux, il faut que ça soit très accéléré. C'est-à-dire un peu à l'image de Train de Vis que j'avais fait avec le rabbin, il faut que ça soit paranoïaque. Et vous êtes deux gamins, vous êtes comme au village, puisque c'est deux amis qui sont connus au village quand ils étaient jeunes, vous êtes comme dans le village et vous vous chamaillez toujours, dont le sujet principal, c'est quand même Alma, puisque les deux étaient amoureux d'Alma. Léo, bien sûr, c'était son amoureuse officielle, mais depuis le village, il soupçonne quand même que Bruno est couché avec elle.
Il y a, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec le déluge notamment, mais la tradition talmudique est très présente tout au long du film. Donc il y a le déluge, il y a la Melvovnik. Ça, c'est vous qui l'avez introduit, cette dimension-là?
Non, c'était déjà dans le livre, c'était déjà formidablement écrit. Le déluge est le déluge comme métaphore parce que, par exemple, tous les personnages ont subi un déluge, même si ce n'est pas que la Shoah. C'est-à-dire Léo, Alma et leur génération ont subi la Shoah. Mais ce qui est beau dans le livre, encore une fois, c'est l'écho presque de la Shoah, ou transformé aussi d'une autre manière. C'est-à-dire la famille new-yorkaise, eux, ils ont subi un autre déluge, c'est la perte du père. Et on sait bien aussi ce que ça veut dire dans la philosophie juive, la perte du père et la perte de certains repères. Donc tous ces personnages ont subi un déluge et ils essayent tous, par l'amour et par l'humour, certains étant un tout petit peu déglingués, mais ils essaient de se remettre debout. Ils essaient de reconstruire leur vie et de retisser les relations. Parce que la famille, effectivement, elle s'aime énormément, mais elle est déglinguée. On sent bien qu'ils n'arrivent plus à communiquer très bien les uns avec les autres parce qu'ils sont perdus. C'est-à-dire cette perte subite du père les a complètement perdus. Et ils essayent difficilement, parfois drôlement, à se remettre ensemble.
Cette quête, elle est symbolisée aussi par donc la jeune Alma, c'est ça ?
Elle est symbolisée aussi par la jeune Alma qui apprend comment survivre à toutes circonstances que son père lui avait appris. Donc là aussi, il y a un écho de la Shoah et de toute l'histoire du peuple juif qui a toujours dû survivre. Et pareil, elle survit aussi avec l'humour, mais angoissée par toutes les guerres qui sont toujours présentes. Et ça parle énormément à notre époque. Elle a une engueulade avec son amoureux où il lui dit, peut-être lui ayant raison aussi, il dit arrête, il n'y a plus de guerre, tu peux vivre maintenant tranquillement l'amour. Elle dit non, il y a des guerres partout. Parce qu'elle a des antennes, comme son petit frère, qui ne la laisse pas vivre tranquille. Donc il faut qu'elle trouve quelqu'un pour l'apaiser, un nouveau père, quelqu'un, un adulte, et qu'elle se lâche un tout petit peu, qu'elle s'offre, si je peux dire, à un sentiment noble qui est l'amour qu'elle recherche.
Pour vous, c'est un film sur l'identité, sur la transmission ?
C'est un film sur l'amour, sur les liens, sur la mémoire, beaucoup sur les liens, sur la force de l'écrit. Ça, pour moi, c'est très important. Et effectivement, un des personnages, pour moi, c'est le livre, même si on le voit peu, mais il est omniprésent, parce que c'est le livre qui est envahi d'amour, tous les personnages, et aussi, comme on l'a évoqué, sur la parole donnée, parce que cet homme qui est fou, ce Léo, qui traverse le film de 18 ans jusqu'à 80 ans à peu près, c'est fou le nombre de promesses qu'il fait, et à chaque fois il les tient. Il les tient malgré tout. Et ça, je trouve d'une beauté, d'une leçon, pareil pour notre époque, que l'amour gagne à chaque fois, jusqu'à se poser la question, ce qu'on se pose dans des débats où je demande aux gens, est-ce que vous pensez que Léo a été heureux ? Puisqu'il ne vit pas que heureusement ses relations. Et certains disent oui, certains disent non. Et moi, je leur dis, mon avis, c'est que oui. Parce qu'il n'a jamais flanché. Et parce que l'amour est sorti triomphant. Et lui, c'est ça qui l'a rendu heureux. Et c'est ça qui a accompli son destin.
Quand vous parlez de parole donnée, en l'occurrence, Alma, cette femme, elle ne la respecte pas complètement, cette parole.
Et si, elle la respecte
pour
tout le jour.
Ah
bah, Alma, en tout cas, elle demande à Léo de survivre. Il survit. Mmh. Il survit, il a une force, bon, l'amour aide aussi, et lui demande ensuite, je ne peux pas dire quoi, par rapport à leur enfant, elle lui demande de promettre quelque chose, il tient quasiment jusqu'au bout.
Lui, Léo, il tient toutes ses promesses. C'était juste elle, sur ses retrouvailles impossibles avec Alma.
Elle tient toutes les promesses, même si parfois ce n'est pas par rapport à lui. Elle a dû donner, le pensant mort à un moment donné, elle a dû faire une autre promesse. Puisqu'elle le pensait mort. Mmh. Et qu'à un moment donné, crucial de leur vie, on ne peut pas dévoiler au public avant qu'ils le voient, elle ne peut pas peut-être aller à ce moment-là avec Léo parce qu'elle a fait une autre promesse et qu'elle aussi est une femme de parole.
Mais c'est un personnage complexe quand même, cette Alma. Ce n'est pas juste un objet d'amour comme ça.
C'est un vrai être humain avec des vrais principes et aussi dans une certaine circonstance historique. C'est-à-dire aujourd'hui, ça aussi c'est intéressant dans les débats qu'on a fait, où certains effectivement jugent Alma, et ce qui est beau, c'est entre générations. Il y a la génération 60% parents divorcés qui la jugent d'une certaine manière, parce que c'est courant aujourd'hui de se séparer très vite, de partir, de se reconstruire autrement. Et il y a une autre génération qui dit attention, à une autre époque, il n'était pas facile, et on ne souhaitait pas se séparer aussi vite. Donc ça implique, et on donnait d'autres, on faisait d'autres engagements, on promettait autre chose, donc on tenait aussi ces promesses-là. Donc voilà, mais après, moi je ne juge pas, mais il faut regarder toutes ces situations-là de plein de points de vue différents. Et se poser à chaque fois la question, celui qui agit, est-ce qu'il est vraiment conquis par l'amour ou pas ? C'est-à-dire, Alma, quand elle est obligée d'agir d'une certaine manière, je pense qu'elle le fait par amour. Et qu'elle a un choix cornélien comme dans le choix de Sophie, quand elle arrive au camp et on lui dit « tu choisis entre tes deux enfants, lequel meurt, lequel survit ?» Et que là, comment tu fais ? Donc Alma aussi, je pense qu'à des moments cruciaux, elle essaie de faire le moins de mal possible. Et elle ne pense absolument pas à elle.
Mmh. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu. Et puis, je rappelle évidemment donc à nos auditeurs que votre film, L'Histoire de l'amour, produit avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, sera donc sur les écrans le 9 novembre prochain. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web, radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.
Merci.